L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, avec la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, on va tenter de comprendre pourquoi un opposant congolais mort en Belgique n'est toujours pas enterré un an après sa mort. En France, le mal-logement, une nouvelle fois dénoncé par la Fondation Abbé Pierre. Au programme également, le coût des soins médicaux dans le collimateur en Suisse. Au Canada, une enquête sur un tueur en série. Et en Belgique, une molécule miracle capable, paraît-il, de redonner de la libido aux femmes. Benoît Audet, au Québec, votre personnalité de la semaine, c'est une jeune infirmière.
Oui, Émilie Ricard, une jeune femme de 24 ans, elle a publié un message sur sa page Facebook après une nuit de travail exténuante. Son message a été relayé des dizaines de milliers de fois. Elle a reçu des appuis de partout, particulièrement de collègues infirmières qui sont dans la même situation qu'elle. Ce cri du cœur a remis à l'avant-plan les conditions de travail des infirmières au Québec, un sujet qui revient régulièrement dans l'actualité.
En Suisse, Pierre Anchoffat, Roberto Balzaretti, c'est le nouveau Monsieur Europe.
Élégant, brillant, ce diplomate est intimement lié au dossier européen. Il était stagiaire à la mission suisse à Bruxelles lors du dépôt de la demande d'adhésion en mai 1992. Presque la préhistoire, tant la Suisse en est loin aujourd'hui. Mais le pari du ministre des Affaires étrangères, Ignacio Cassis, paraît gagnant avec ce fin connaisseur des arcanes bruxelloises comme seul responsable du dossier européen. Sa fermeté et son franc-parler devraient aider à débloquer les négociations. La Suisse espère conclure avant la fin 2018, avant l'année électorale.
En Belgique, une femme politique a fait beaucoup parler d'elle cette semaine. Certains disent même qu'elle a libéré la parole des libéraux. C'est la présidente du Sénat. Christine Defraigne n'est pas d'accord avec les termes du projet de loi sur les visites domiciliaires et elle n'a pas manqué de le faire savoir. Anne Goderneau.
Jusqu'il y a peu, tous les partis au sein du gouvernement fédéral soutenaient le projet, mais une femme a brisé cette apparente unanimité. Membre du MR, le parti du Premier ministre, présidente du Sénat, mais aussi membre du Conseil communal à Liège, Christine Defraigne a donc dit non et voté une motion contre ce projet. Pour cette juriste de formation, il ne respecte pas la Constitution. Elle fait notamment référence au principe de proportionnalité entre l'objectif poursuivi et les moyens déployés. Alors une sortie publique remarquée qui a sans doute irrité les pontes du parti, mais qui a aussi ouvert une brèche puisque d'autres parlementaires libéraux lui ont emboîté le pas. Christine Defraigne déclare être aujourd'hui en phase et en concordance avec ses convictions.
Le portrait de la semaine sur RFI, Charlotte Hydrac, ça concerne la fin du feuilleton Aubameyang.
Oui, Pierre-Emerick Aubameyang, Aubame pour les intimes, l'attaquant gabonais a finalement remporté son bras de fer avec Dortmund. Le footballeur quitte officiellement le club allemand, direction Arsenal. Le club londonien a fait sauter la tirelire à environ 65 millions d'euros. Le prix à payer pour un serial buteur, même un petit peu fantasque et parfois provocateur, depuis son arrivée en Allemagne en 2013, Pierre-Emerick Aubameyang aura marqué pas moins de 141 buts, toutes compétitions confondues.
En France, la révocation de Mathieu Gallet, le président de Radio France, devra quitter son poste à la tête des radios publiques, dont France Inter, à la fin du mois. Mathieu Gallet avait été condamné il y a 15 jours à un an de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende pour une affaire de favoritisme quand il présidait l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Il a fait appel de ce jugement, mais ça n'a pas empêché le Conseil supérieur de l'audiovisuel de révoquer le président de Radio France. Et en attendant une nouvelle nomination, eh bien, c'est le doyen du conseil d'administration de Radio France, Jean-Luc Vergne, qui devrait assurer l'intérim. Voilà maintenant une histoire assez dérangeante. C'est votre sujet de la semaine sur RFI, Charlotte Hydrac. L'opposant congolais Étienne Tshisekedi n'est toujours pas enterré un an après sa mort.
Son corps est toujours dans un funérarium à Bruxelles. C'est là que l'opposant historique de RDC est décédé le 1er février 2017. Depuis, son rapatriement chez lui au pays a été plusieurs fois reporté. Aujourd'hui, les tractations sont bloquées entre le gouvernement, son parti, l'UDPS, et sa famille biologique.
Mais alors, qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui coince dans cette histoire, Charlotte ?
Alors, selon ses proches, le régime de Joseph Kabila aurait peur de la foule qui viendrait accueillir le corps à Kinshasa. Mitch Katumba est président de l'UDPS à Bruxelles.
Kabila, il ne doit pas avoir peur. Ce n'est pas le corps de Tshisekedi qui va l'enlever du pouvoir. Il n'est pas question qu'on puisse enterrer Tshisekedi à l'extérieur. On est africain et on est bantou. Il y a des coutumes, nous avons nos mœurs. Une veuve ne peut pas rester comme cela pendant une année. On n'a pas enterré son mari.
De son côté, le gouvernement renvoie la responsabilité sur le parti et la famille qui auraient demandé des postes en échange de ce retour. En tout cas, un an plus tard, la situation politique en RDC n'a cessé de se dégrader. L'opposition est divisée. Maître Joseph Mukendi, un des anciens compagnons de route d'Étienne Tshisekedi.
Des personnes qui pensent qu'avec la mort de Tshisekedi, le combat s'est arrêté, se trompent. Parce que l'esprit de Tshisekedi, notamment ses valeurs qu'il nous a incarnées, nous les avons tellement intériorisées qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'un seul Tshisekedi, il y a des millions de Tshisekedi qui peuvent continuer ce combat.
La présidentielle est prévue dans 11 mois en République démocratique du Congo, mais aujourd'hui, le parti de l'ancien leader est toujours orphelin.
En France, la Fondation Abbé Pierre s'inquiète une nouvelle fois du mal logement. Ça concerne 4 millions de Français, c'est-à-dire 6% de la population, mal logés donc, ou parfois carrément privés de domicile. Le rapport de la Fondation Abbé Pierre dénonce au passage les dernières mesures du gouvernement, comme la baisse des allocations pour le logement des jeunes adultes. Quelques coupes sombres qui laissent craindre également en France du retard dans la rénovation d'immeubles devenus insalubres. Autre phénomène mis au jour par la Fondation, la suroccupation des logements. C'est un phénomène peu connu et peu pris en compte quand les familles s'entassent dans trop peu de mètres carrés. Écoutez ce témoignage d'un père de famille, Olivier. Il habite une chambre de bonne de 9 mètres carrés au dernier étage d'un immeuble cossu du quartier Saint-Germain à Paris. Les toilettes sont sur le palier et Olivier habite ici avec son fils. Il a 11 ans.
C'est vraiment pas l'idéal, hein, parce que les circonstances pour pouvoir assurer une scolarité beaucoup plus stable pour mon fils, j'ai dû le reprendre avec moi. Donc on s'est retrouvé là. Les toilettes sont dehors, il y a un seul clic-clac qu'on déplie dans la nuit pour pouvoir dormir, avec deux chaises pour pouvoir faire ses devoirs. C'est là où on pose nos plateaux pour manger. J'ai essayé de faire du mieux qu'on a pu, hein, pour histoire de s'organiser, mais un enfant, il a aussi besoin d'un espace privé. Je dis, c'est frustrant pour lui de ne pas pouvoir recevoir ses amis. On s'est adapté, hein, mais c'est difficile.
La suroccupation des logements en France, témoignage recueilli par Yann Gallic de France Inter. En Suisse, la grève des chirurgiens de la main, le thème a été évoqué ici la semaine dernière, eh bien, ça a déclenché une vive polémique sur les coûts de la santé en Suisse et sur le revenu des médecins en général, Pierre Anchoffat.
Oui, cette grève, pour le moins inhabituelle chez nous, résulte de la décision du gouvernement de réviser les tarifs pour certains actes médicaux. Une grève qui agace le ministre Genevois de la Santé. Il n'a pas hésité à dénoncer des gains de l'ordre du million de francs pour ses chirurgiens. Un montant qui a fait sortir de ses gonds le président de la Confédération, Alain Berset, en charge lui-même de la santé.
Il n'y a pas la transparence sur les salaires des médecins. Et quand M. Poggia parle de salaires qui peuvent dépasser le million par année pour un médecin spécialiste, ça veut dire jusqu'à 80 000 ou 90 000 francs de salaire par mois, payé par les primes. C'est pas acceptable, tel salaire. Il y a beaucoup d'engagement, mais qui peut justifier un salaire pareil sur le dos des gens qui payent des primes? Nous avons agi. Quelle est la réaction? Une grève.
Membre du comité central de la Fédération des médecins suisses, Michel Mater se dit abasourdi par ce qu'il ressent comme une attaque.
L'amalgame a été stigmatisant et blessante de la part du président de la Confédération en mélangeant ou en faisant mine de ne pas savoir, je ne sais pas, entre l'assurance de base, c'est-à-dire ce que les gens payent à travers leurs primes, et ce qui est lié aux assurances complémentaires, c'est-à-dire à la part privée qui, elle, n'a rien, je dis bien rien à voir avec les primes.
Voilà bien le problème, le manque de transparence sur la rémunération des médecins est encore aggravé par la confusion qui règne pour le public, mais aussi les politiques, entre ce qui est payé par l'assurance obligatoire et ce qui relève des complémentaires, le tout renforcé par des acteurs qui se renvoient la balle sur la responsabilité de l'augmentation des coûts. Et vous comprendrez la défiance qui s'accroît en Suisse à l'égard d'un système de santé pourtant reconnu pour sa très haute qualité.
Comment rendre du désir aux femmes qui en manquent? Eh bien, en Belgique, une équipe de l'Université de Liège a peut-être trouvé la réponse. Elle a découvert une molécule qui ravive la libido. Les expériences sur les souris sont concluantes et donc place maintenant aux tests humains, Anne Goderniaux.
Cette molécule, c'est la kisspeptine. Des tests ont été menés sur les souris et les résultats sont éclairants, comme l'explique Julie Bakker, neuro-endocrinologue à l'Université de Liège.
Si les souris n'ont pas de kisspeptine, elles n'ont aucun intérêt pour le mâle. Mais si on va injecter de la kisspeptine chez ces femelles, elles tout de suite sont intéressées par le mâle.
Alors, la kisspeptine, molécule responsable du désir sexuel, est aussi présente chez l'être humain et en particulier chez la femme. L'expérience va donc être menée à présent sur une vingtaine de participantes afin de voir si l'injection de cette molécule provoque les mêmes effets que sur la souris. Et vous allez l'entendre, les candidates à l'expérimentation sont nombreuses.
J'ai reçu beaucoup de demandes, une centaine jusque maintenant. Déjà, donc, oui, les femmes sont fort demandeuses de nouveaux traitements qui pourraient stimuler le libido.
Le manque de libido chez les femmes, en Belgique, Anne, est-ce que beaucoup de femmes sont concernées ?
Oh, pas qu'en Belgique. Selon certaines études scientifiques, ce trouble du désir sexuel concernerait 40% des femmes après la ménopause. Mais il toucherait aussi des femmes plus jeunes, et notamment de jeunes mères de famille. Christine Debois est sexologue.
Il est clair que quand on rentre à 7-8 heures du soir, qu'on a encore les enfants à coucher, la manne de linge à faire, et qu'il est 11 heures du soir, la première des choses qu'on va sacrifier, c'est sa vie de couple.
Voilà, un besoin bien réel donc. L'objectif est d'arriver à développer ce médicament d'ici une dizaine d'années.
Au Canada, la ville de Toronto est secouée par une enquête sur un présumé tueur en série. Le suspect est un homme de 66 ans. Il est accusé des meurtres de 5 hommes. Benoît Audet, les détails de cette enquête sont particulièrement sordides.
Oui, imaginez-vous que la police a retrouvé les restes démembrés de 3 personnes dans des bacs à fleurs d'une propriété de Toronto. Le suspect dans cette affaire, Bruce MacArthur, était responsable de l'entretien paysager autour de cette maison et les recherches s'étendent pour fouiller d'autres propriétés où Bruce MacArthur aurait pu effectuer du travail. Les policiers croient donc qu'il aurait tué ses victimes avant de les démembrer et d'enfuir leurs restes aux 4 coins de la ville dans des bacs à fleurs.
Et cette affaire secoue la communauté gay de la métropole canadienne.
Oui, plusieurs victimes identifiées jusqu'à maintenant fréquentaient le quartier gay de Toronto. D'ailleurs, depuis plusieurs années, des gens de la communauté étaient convaincus qu'un tueur en série était à l'œuvre dans le quartier. Des gens qui ont connu le tueur sont sous le choc. On écoute Jocelyn Lemoine.
Moi, je dis bien ça en bon français, là, c'est bien rochant. Fait que je me posais des questions, qu'il serait-tu plus marvé Pourquoi moi, il n'y a rien arrivé? Ça, c'est des questions, c'est sûr, que tu te poses. Là.
L'enquête se poursuit. Ça risque d'être long, d'autant plus que le froid complique les recherches des policiers. On s'attend donc à d'autres accusations au cours des prochaines semaines.
Voilà donc pour le tour d'horizon de l'actualité francophone. Merci aux contributeurs de Suisse, de RFI, du Canada, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine, même endroit, même heure. We'll be right back.